Merci Augustin et on retrouve Boomerang lundi matin. Alors exceptionnellement ce matin, pas d'Instant M, on reprend nos vieilles et bonnes habitudes. Une fois par mois, l'Instant M laisse le micro et laisse le studio au médiateur des antennes de Radio France. J'ai donc la chance et l'honneur de vous présenter Emmanuelle Davier. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Sonia.
Vous êtes la nouvelle médiatrice de Radio France, vous êtes la première femme nommée à ce poste. Vous succédez à Bruno Donnas qui a pris sa retraite à la fin du mois de juin. Quel va être votre rôle ou du moins comment est-ce que vous l'entendez, vous, ce rôle de médiatrice?
Alors, comme vous le savez, le médiateur, c'est l'intermédiaire entre les auditeurs et les antennes de Radio France. Et Sybille Veil, elle a une ambition très forte quant au renforcement de ce lien.
Voilà, Sybille Veil, c'est notre PDG.
Absolument. Et donc, je lui ai proposé un projet qui vise à intensifier ce lien. Et cela va passer par des rencontres, du dialogue, de l'échange entre les rédactions, les programmes, les auditeurs et les auditrices à Paris et en région.
Et donc, des rencontres physiques ?
Absolument. Ouais. Moi, j'y tiens. Je trouve que le face-à-face, la confrontation, le duel parfois, les joutes verbales et puis aussi les beaux dialogues, eh bien, ça fait le sel de la vie. Et ça, c'est vraiment j'en avais déjà la conviction, mais l'expérience d'interclasse où nous sommes allés à la rencontre de publics qui ne sont pas toujours les plus faciles m'a renforcée dans cette conviction que lorsqu'on rencontre l'autre, on s'enrichit. Et voilà. On s'enrichit de nos différences. Et ça, j'y tiens.
Interclasse, c'est cette opération que vous menez depuis que France Inter s'est engagée justement à aller à la rencontre des collégiens et maintenant également des lycéens. On a parlé là justement de ces échanges physiques qui vont être nouveaux, mais il y a eu aussi tous ces échanges numériques, tous ces échanges virtuels. Est-ce que vous recevez beaucoup de mails? Est-ce que vous recevez beaucoup de messages?
Nous avons reçu près de 13 000 mails ce mois-ci. Ils sont tous lus et dans la mesure du possible, ils sont traités.
Bon bah écoutez, je vous laisse Emmanuelle, puisqu'aujourd'hui je vous laisse le micro et le studio. Bonne émission.
Merci Sonia.
France Inter, le rendez-vous de la médiatrice Emmanuelle Davier.
En ce mois de septembre, 5 sujets ont suscité un grand nombre de réactions de la part des auditeurs de France Inter. La séquence d'émission de Nicolas Hulot, le nouveau jingle de l'antenne, la parole interrompue de Pierre Laurent, l'invitation faite à Éric Zemmour. Et nous allons aborder tous ces sujets ce matin avec Laurence Bloch, directrice de France Inter, et Ali Badou, producteur du Grand Face-à-Face, le samedi.
France Inter, le 7-9.
Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
Aujourd'hui.
Vous êtes sérieux là ?
Oui, je suis sérieux.
C'était pouvoir... un moment de grâce. Voilà. C'était un moment unique.
J'ai senti dès le début de l'entretien avec Nicolas Hulot que ce serait une interview particulière.
Sans doute pour moi le moment de radio le plus fort que j'ai vécu.
Bonjour Pierre Aski.
Bonjour Nicolas.
Chaque matin, on vous retrouvera donc vers 8h17 pour la chronique géopolitique. Ce matin, pour votre première, vous revenez sur la disparition de John McCain.
Est-ce qu'on a déjà des échos de l'émission au téléphone ou pas encore ?
Lumière dans la nuit.
Non, on a des chutes d'audience.
Édouard Baird, sur France Inter.
Laurence Bloch, bonjour.
Bonjour.
3 jours après la rentrée des grandes radios généralistes, annonce fracassante de la démission de Nicolas Hulot sur France Inter. Comment avez-vous vécu cette séquence ?
Je crois qu'on l'a vécu un peu comme tous les auditeurs. Hein. D'abord dans la sidération, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'un homme politique, un ministre, annonce sa démission en direct à la radio. Et puis on l'a très vite vécu avec beaucoup de gravité parce qu'on a senti que c'était un moment important pour le pays et avec intensité. Donc... La directrice de l'information, Catherine Nel, a décidé tout de suite de faire une édition spéciale, de lui donner du temps. Donc il y a eu un entretien de 50 minutes mené par Léa Salamé et Nicolas Demorand, un entretien sous pression, enfin compliqué, et en même temps extraordinairement intéressant, parce que c'est un homme qui revenait sur les mécanismes du pouvoir, sur son impuissance, sur la difficulté à faire changer les choses, sur la... douleur qu'il en éprouvait. Enfin, je veux dire, c'était à la fois une leçon d'histoire politique et un témoignage très personnel qui nous a tous, je crois, vraiment beaucoup marqués.
Alors, après ce moment politique, ce moment de radio, il y a eu le service après-vente assuré par Léa Salamé et Nicolas Demorand. Pourquoi avoir fait cette vidéo ?
Alors là, c'est drôle, hein, parce que au fond, on a récolté l'inverse de ce qu'on espérait. C'est-à-dire que quand il y a un moment comme ça à la radio, il faut imaginer la pression que c'est. D'abord pour les deux producteurs, hein, c'est-à-dire que il faut tenir une antenne avec quelque chose qui est parfaitement imprévu et non préparé. Et puis après, il faut voir ce que c'est. C'est-à-dire qu'après, toutes les télés vous appellent. Moi, j'ai été sollicitée par 5 télévisions différentes, Catherine Nel de la même façon, Nicolas et Léa, surtout pour qu'on parle des coulisses. Est-ce que vous saviez ? Qu'est-ce qu'il a dit avant ? Et on a décidé qu'au fond, on ne voulait pas capitaliser sur cet entretien, qu'il était trop grave et qu'il valait mieux qu'on fasse effectivement une vidéo dans laquelle Nicolas et Léa s'expliqueraient sur ce moment. Et puis, voilà, il y a une vraie maladresse. Léa, il faut imaginer la pression. Cette vidéo, elle a été faite une demi-heure après l'entretien. Léa a eu cette formule malheureuse. On ne l'a pas rattrapée. Moi, je suis la première. Je prends la responsabilité du fait de ne pas avoir regardé la vidéo, de ne pas l'avoir retitrée. Et voilà, on a eu un buzz franchement bien involontaire et dont on se serait bien passé parce que je pense que l'honneur d'Inter, c'est de ne pas récupérer ce moment.
Combien de fois a été vue cette vidéo?
Alors, le jour même, 4 millions et aujourd'hui près de 6 millions.
Alors, la rentrée de France Inter a été également marquée par des arrivées. Pierre Aski dans la matinale à la place de Bernard Guetta. Un mot sur cette succession?
Pierre, je crois que c'était absolument naturel de lui confier la chronique géopolitique de France Inter parce qu'au fond, Pierre, il travaille cette matière parce que c'est une matière qui a une histoire. Il travaille cette matière depuis 30 ans. Il a arpenté la planète. Il a été correspondant pour l'AFP en Afrique du Sud. Il a été très longtemps correspondant de Libération en Chine pendant 5 ans. Il a été correspondant aussi pour Libération au Proche-Orient. Et cette expérience de terrain, mais aussi d'analyse, nous semblait être voilà, l'expérience dont on avait besoin tous les matins à 8h15.
Et alors, du matin.
Et je m'en félicite.
Et du matin, on va passer au soir, le week-end, avec Les Lumières dans la nuit d'Edouard Baird.
Voilà, un titre que la direction de France Inter ne voulait pas, comme dit Edouard Baird, mais qui, au fond, voilà, il fallait le laisser faire parce qu'Edouard Baird, c'est un artiste et c'est vraiment un funambule radiophonique de génie qui passe de moments de gravité extrême à des moments de légèreté éblouissants. Voilà, c'est un homme très cultivé et avec beaucoup d'intérêt pour les gens qui sont des écrivains, qui sont des artistes, mais les gens qui sont sur l'Aquarius aujourd'hui, les gens qui sont des sans domicile fixe. Voilà, je trouve que c'est une expérience radiophonique absolument unique tous les soirs. Tous les soirs, non. Qu'est-ce que je dis? Pas tous les soirs, le dimanche soir. Vous voyez, c'est l'inconscient qui parle.
Alors, autre nouveauté en cette rentrée dans les oreilles des auditeurs.
France Inter, le 7-9.
Nouveau jingle et de nombreux commentaires, notamment d'auditrices. Maria Pia nous écrit « Depuis la rentrée, l'habillage sonore a changé et on ne s'y fait pas. Mon fils de 12 ans réclame que je vous fasse un mot en ce sens, aussi je m'exécute. » Isabelle nous adresse ce mail « Comme bon nombre d'auditeurs qui vivent autour de moi, je voulais vous signaler que nous n'approuvons pas du tout le choix de la nouvelle virgule depuis la rentrée. Nous n'y retrouvons pas l'identité de notre France Inter préférée, en espérant que cette démarche puisse susciter un changement. » Laurence Bloch, est-ce que ces mails ont suscité un changement?
Alors, on a changé l'habillage des matins et ce qu'on appelle l'indicatif de chaîne qui vient rythmer l'antenne toutes les demi-heures. On l'a changé. On l'a fait évoluer parce que c'est comme... Voilà, si vous ne faites pas changer même un habillage de chaîne, vous avez quelque chose qui est... Il y a du dissensus entre les programmes qui ont bougé et la couleur de l'antenne. On l'a fait bouger sans doute trop vite. Nos oreilles... On suffit à nous faire considérer que c'était pas tout à fait au point. Donc, on a restauré l'indicatif de chaîne, mais on a gardé le nouvel habillage. Et depuis, nous n'avons plus du tout de commentaires.
Autre dissensus sur l'antenne en cette rentrée, la présence d'Éric Zemmour dans le grand face-à-face animé par Ali Badou.
Ce qui me choque le plus, c'est la petitesse des explications. C'est que vous ramenez tout à votre niveau. Vous êtes la dame pipi de l'histoire française, quoi. C'est-à-dire que vous réduisez le départ de De Gaulle à une vulgaire chose dégueulasse de vouloir être sur une liste, sur une liste gouvernementale.
Il y a tout dans les motivations des hommes. Il y a des choses mesquines, médiocres. De Gaulle n'en était pas étranger.
Vous aurez reconnu les voix de Raphaël Glucksmann et Éric Zemmour, donc dans le grand face-à-face animé par Ali Badou, c'était le 15 septembre dernier, et cela a suscité une avalanche de réactions de la part des auditeurs. Je cite l'un de ces mails, « Que s'est-il passé pour que Zemmour soit sur Inter? Ce n'est pas digne du service public. » Laurence Bloch, comment recevez-vous ce point de vue?
Écoutez, Éric Zemmour vend des ouvrages à des centaines de milliers d'exemplaires. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. On peut la contester, mais elle est là. On a fait très attention à ce qu'il y ait un temps long, c'est-à-dire qu'effectivement, ce ne soit pas une zone de combat, mais une zone de débat. C'est d'ailleurs le principe même du grand face-à-face, c'est qu'il y ait du débat d'idées, avec du temps long, avec des arguments, sans chercher le buzz et sans chercher le clash. Et je crois que c'est au contraire l'honneur du service public que de savoir travailler avec la raison et pas seulement l'indignation.
Au sujet d'Éric Zemmour, je pensais, écrit Yvonne, qu'il était plus ou moins exclu de la liste des invités possibles de France Inter. Existe-t-il des persona non grata sur l'antenne ?
Non.
Et que répondez-vous à un auditeur qui écrit « Je souhaite ne plus jamais entendre Monsieur Zemmour s'exprimer sur l'antenne de France Inter ».
Je pense que c'est la fondation même d'une société démocratique que d'accepter la confrontation des idées, même si on les déteste.
Alors je me tourne à présent vers Ali Badou, animateur du Grand Face-à-Face. Ali, bonjour.
Bonjour.
Vous me donnez beaucoup de travail en cette rentrée.
Désolé, vraiment mille excuses.
Alors je poursuis la lecture des mails avec Philippe qui pose une question simple. Comment peut-on penser qu'un débat soit possible avec ce type d'individu ?
C'est une très bonne question, c'est une question qu'on s'est évidemment posée et je dois dire que je suis très content qu'il y ait autant d'auditeurs à réagir après cette émission et ce numéro du Grand Face-à-Face parce que d'abord ça veut dire qu'ils se posent des questions que nous nous posons, ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas passifs derrière leur poste de radio et du coup j'ai très envie aussi qu'on puisse enrichir ce dialogue avec les auditeurs. Mais j'ai le droit de ne pas être d'accord avec ce que vient d'écrire Philippe ou de dire Philippe, puisque moi je pense au contraire que dans le grand face-à-face avec Éric Zemmour, Natacha Polony et Raphaël Glucksmann lui ont apporté une vraie contradiction. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'on ne débat pas avec des personnes qui sont d'accord avec soi. Ils ont été au fond des choses, ils avaient lu son livre et je trouve qu'il y a eu des moments qui étaient des vrais moments révélateurs. Révélateurs au fond de la pensée et aussi de la stratégie politique d'Éric Zemmour. Et ce qu'on vient d'entendre à propos du général de Gaulle et de son refus de choisir dans son livre entre Philippe Pétain et Charles de Gaulle, c'est pas juste quelque chose qui peut choquer les auditeurs. Et ça, Raphaël Glucksmann l'a très bien pointé du doigt. Ça correspond à la volonté de faire sauter la barrière entre deux droites, la droite et l'extrême droite. Il y a donc une vraie volonté politique, et c'est un idéologue de la droite, à mon avis, qui méritait d'être reçu dans le grand face-à-face.
Alors, suite à cette avalanche de mails, vous avez répondu par écrit aux auditeurs. Chacun peut d'ailleurs lire votre texte sur le site. Vous citez l'argument numéraire pour expliquer l'invitation. Je vous cite « Éric Zemmour vend ses livres à des centaines de milliers d'exemplaires et l'ignorer serait une faute ». Alors, pourquoi cela constituerait une faute ? Et puis, où se situe alors la responsabilité ?
Alors, d'abord sur le nombre de livres vendus, c'est pour dire que sa pensée rencontre un écho, ou en tout cas que ses idées rencontrent un écho. J'aurais pu ne pas citer le nombre de livres vendus, mais le nombre de conférences, de rencontres avec des lecteurs qui sont organisées partout en France. Et c'est vrai que là, pour le coup, ce sont des milliers de personnes qui viennent le suivre, l'écouter, échanger avec lui. Ses idées existent dans le paysage. Et en l'occurrence, la responsabilité d'un espace comme le Grand Face-à-Face, qui est un espace de débat, c'est de mettre en discussion, de mettre en débat les différentes idéologies. Et il se trouve que la sienne en est une.
Alors justement, dans cette optique, Aurélien a une suggestion. Pourquoi ne pas inviter des historiens, des sociologues ou simplement des personnes honnêtes dans leur raisonnement au lieu de faire venir des produits médiatiques qui manipulent l'histoire pour la faire concorder à leur idéologie ?
Alors on invite aussi des historiens et si vous reprenez le fil et le nombre de nos grands face-à-face, on a reçu des sociologues, des historiens, des intellectuels, des personnes qui sont engagées dans une démarche scientifique, mais on reçoit aussi des gens qui ont des partis pris, des sensibilités qui peuvent choquer, irriter, qui peuvent être dans l'idéologie et non pas dans le travail scientifique. C'est aussi notre vocation de donner la possibilité d'échanger avec ces personnes-là.
Dans quelles conditions sont réalisées vos émissions ?
Alors elles sont toujours dans les conditions du direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage. Et contrairement justement à d'autres émissions qui vont monter le moment qui va faire polémique, nous, on garde l'intégralité de ce qui a été dit au micro. Ce qui, à mon avis, est une forme d'honnêteté vis-à-vis et de nos invités et des auditeurs.
Eh bien, on va écouter tout de suite un autre extrait d'émission avec Pierre Laurent cette fois-ci.
Moi, la politique que j'ai envie de construire, c'est résolument un essor de la démocratie. Et ça, ça s'oppose effectivement à la conception populiste.
Alors, vous dites
qui est
pas
celle
de
des
populisme
chefs.
D'extrême droite, mais le populisme à la Mélenchon, comment vous situez
mais
par rapport
moi,
à
moi, je pense
il
que dans la gauche, populisme. Dans la gauche, en France et en Europe, il y a parfois des tentations de céder à ça, en disant, puisque le combat est si difficile, on va prendre des raccourcis, on va faire comme ça. Je n'y crois pas et je pense que c'est dangereux.
Donc ça veut dire c'est la rupture avec Mélenchon aujourd'hui. Par exemple, mais si vous êtes, si vous êtes fidèle à ce que vous dites, c'est la rupture.
Parce que
ça fait une demi-heure qu'on passe du temps avec vous. On n'a toujours pas compris votre stratégie. Stop ou encore, Jean-Luc Mélenchon ?
Cette émission avec Pierre Laurent, le 16 septembre dernier, nous a valu un courrier très abondant. Alors, le principal reproche formulé par les auditeurs, avoir systématiquement coupé la parole à Pierre Laurent. Marianne, une auditrice qualifiant même le procédé, je cite, de stratégie de déstabilisation consciente. Ali Badou, pourquoi arrive-t-il que des journalistes coupent la parole à un invité ?
Alors là, pour le coup, d'abord, pour répondre à l'accusation, il n'y a absolument aucune stratégie, il n'y a aucune arrière-pensée. Ce qui est curieux, c'est que quand on interrompt un invité en général, et là, c'est ce que faisait Karine Bécart qu'on a entendu et Françoise Fressoz, la journaliste du Monde qui participe à Questions politiques, c'est qu'elle se mettait justement à la place de l'auditeur et Pierre Laurent ne répondait pas à leurs questions. Et il refusait de répondre à leurs questions et il repartait systématiquement sur, non pas de la langue de bois, mais quelque chose qui esquivait la question à laquelle il voulait qu'il réponde, à savoir son rapport à Jean-Luc Mélenchon et aux Insoumis. On était en pleine fête de l'UMA et Jean-Luc Mélenchon, un nombre important de députés insoumis avaient boycotté cette grande fête de la gauche. On voulait savoir pourquoi et du coup quelles étaient les relations avec avec les Insoumis, et il refusait d'y répondre. Donc il n'y a pas de stratégie, vraiment, c'est promis. Et en l'occurrence, c'est en pensant à l'auditeur qu'on se dit qu'il faut interrompre l'homme politique pour l'obliger à répondre honnêtement et sincèrement.
Eh bien, vous ne vous êtes pas dérobé et vous nous avez répondu. Merci Ali Badou.
Merci à vous.
Et je voudrais terminer cette émission par une lecture. Ce mois-ci, nous avons reçu au service de la médiatrice 13 000 mails de la part des auditeurs et une seule lettre manuscrite. Elle vient d'Alsace, elle est signée Adélaïde. Pour vous, les animateurs de Radio France Inter, je tenais depuis quelques jours à vous écrire pour vous dire merci pour toutes les émissions que j'écoute avec beaucoup d'intérêt, toujours passionnantes. Les animateurs sont très sympathiques. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que depuis quelques années, vous êtes là pour m'accompagner dans mes journées. Je ne me sens plus seule. Depuis que je suis aidante d'un mari atteint d'une maladie à corps de Lévy et Parkinson, mes sorties deviennent rares. Je n'ai plus de vie sociale parce que mon mari a besoin de moi en permanence, 24 heures sur 24. Cette maladie l'a détruit et me détruit. Les amis sont de moins en moins présents. Le chagrin nous habite, mais vous, animateur, vous m'apportez beaucoup d'évasion. J'emmène mon poste de radio partout dans la maison. Mes heures s'écoulent en votre compagnie. J'aime votre station. J'allume mon poste et je passe ma journée avec vous. Vos voix m'accompagnent et je me sens moins seule. Avec vous, je m'évade et j'oublie un peu mes difficultés. Vous êtes là. Merci. Je tenais à vous le dire parce que vous êtes la porte ouverte sur le monde. Et je suis comme beaucoup d'aidants et d'aidantes bloqués chez nous à veiller sur nos malades. Tout simplement, merci. Je ne vous connais qu'à travers vos voix, mais je vous embrasse, vous tous, les animateurs, tendrement, Adélaïde. Laurence Bloch, comment vous la trouvez, cette lettre ?
Ah, ça nous donne de l'énergie et du courage pour continuer. Merci Adélaïde.
Merci Adélaïde, on vous embrasse tendrement également. C'est la fin du rendez-vous de la médiatrice. Pour nous écrire, une seule adresse, médiateur.radiofrance.fr. Et tout de suite, vous retrouvez Ali Rebéi et ses invités.